Kill Bayat, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
On avait parlé dans la dernière émission, la 2, des assistants personnels dans l'ère de Jarvis. Alors on va repartir de ça, de la caméra Amazon Echo Look, rappelez-vous, qui donc est cet objet connecté qui permet de donner une note automatiquement à une personne munie de vêtements, enfin c'est mieux, et donc qui permet de noter l'attractivité de cette personne. Et donc on est déjà dans cette histoire, dans l'attractivité en tout cas, dans le rapport à l'autre, et c'est pour ça qu'on va traiter dans cet épisode un peu de la suite, c'est-à-dire du rapport des algorithmes au désir.
Oui, en effet, Amazon Echo Look n'est qu'un des éléments qui existent, qui sont autour de cette question de l'attractivité et de la beauté. On a cette catégorie des beauty apps, pour parler anglais, vous allez voir, on va utiliser énormément d'anglicismes aujourd'hui. Tout simplement, ce sont des applications qui sont là pour juger de la beauté, donc Instagram, Modiface, tout ça, ça permet de modifier les selfies, de changer les traits du visage, il peut y avoir un effet anti-âge, ça permet d'ajouter du maquillage, de changer la couleur des ses cheveux ou que sais-je. Et de manière quasiment miroir, on a des applis comme Golden Beauty Meter ou Pretty Scale. Donc ce sont des applications qui ne se revendiquent pas grand-chose à part d'être des applications de divertissement, mais qui proposent quand même cette idée que l'application de smartphone est capable d'émettre un jugement sur votre attractivité.
Enfin, tu dis que c'est des algorithmes, des applications qui font ça tout seul, mais c'est pas encore des petits prolétaires en Inde ou en Chine qui font ça en se faisant passer pour des bots ?
Non, j'ai plutôt l'impression que c'est un algorithme assez sommaire qui fait le boulot et qui en fait ne raconte pas grand-chose à part juste mesurer le nombre d'or dans ton visage. Moi, il y a un article qui m'intéresse pas mal, qui a été écrit par Anna Sophia Elias et Rosaline Gill, donc c'est des choses en recherche là, qui sont sorties cette année et qui observe vraiment de manière critique tout ce paradigme de la beauté et comment ce paradigme de la beauté dans les apps devient un paradigme de la surveillance de la beauté. Et elle parle de forme de surveillance du corps, donc pour les amateurs de philosophie, on n'est pas loin de Michel Foucault. Et puis, cette question du psychotechnologique, voilà, c'est-à-dire nos corps entrent dans cette ère du psychotechnologique et les algorithmes, au fond, gèrent, avant de gérer des interactions, gèrent d'abord, en fait, nos corps.
Bah ouais, on a parlé de Deleuze, il y a Xavier qui est là. Mais bon, en tout cas, on va parler d'algorithme du désir.
Une autre fois, peut-être.
Longtemps.
En tout cas, donc on parle d'algorithme du désir, mais en fait cette expression c'est pas de nous. On va créditer notre ami Igor Galigo qui avec sa collègue Cléo Colon et Philippe Pais ont fait un entretien tous les trois qui est paru dans la revue Science du Design numéro 4 et donc qui s'appelle, on lui a piqué le titre, Les algorithmes du désir, réflexion sur le design libidinal de Tinder. Donc c'est une étude des interfaces de Tinder et des catégorisations esthétique et donc le lien au désir. Voilà, je note aussi que la revue Multitude devrait, dans un futur qu'on espère proche, faire un dossier sur ce thème-là.
C'est un peu d'auto-promo en fait. Hein.
Voilà.
Donc, j'ai rien entendu.
Après Echo Look, je voulais revenir sur le roman Soft Love dont on a déjà parlé, Pia.
Est-ce qu'on a déjà fait une conférence sans parler de ce roman ? Telle est la question.
Ouais, ça devient notre point Godwin. donc c'est ce roman dans lequel une femme d'affaires dans un futur proche a un super assistant qui donc gère toutes ses tâches au quotidien et en vient à tomber petit à petit, à force de gérer sa vie et sa vie privée, amoureux d'elle, lui fait des crises de jalousie, note ses amants et se trouve mieux qu'elle. Et donc là-dedans, on a tout plein de considérations sanitaires, économiques et psychologiques. Et à la fin, donc, il en vient à se faire écraser par sa propriétaire sous l'effet d'une mise à jour. Et donc la mémoire numérique disparaît.
Je vais faire un peu de recherche là, ou approche de recherche. Il va peut-être falloir qu'on définisse algorithme.
Bon, je m'y colle. Alors, c'était aussi l'objet de ma thèse après tout, en quelque sorte. Mais je vais l'emprunter à Matthew Fuller, qui a dirigé un ouvrage qui s'appelle Software Studies. Et donc, c'est un dictionnaire de plein de timbres relatifs à la culture numérique. Et donc, bon, bah, je vais à l'entrée algorithme, hein, je vais faire simple. Et donc, bah, c'est une suite d'instructions destinées à atteindre un objectif. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ces instructions ne sont pas rédigées dans le langage machine. Elles sont génériques. Et après, donc, l'algorithme, une fois encodé ou en tout cas noté dans un langage informatique, devient un programme numérique. Donc là, après, il est propre à un OS ou en tout cas à une plateforme spécifique. Et puis après, bon, on a là-dessus les applications qui encapsulent des programmes, en quelque sorte, dans des plateformes propriétaires type App Store, donc avec des systèmes de censure ou en tout cas de monétisation, sauf qu'on n'a plus accès au code source.
Je suis super heureux parce que pour une fois, c'est la bonne définition du terme encodé. Quand les gens disent codage, ils ne comprennent pas qu'il s'agit de passer d'un algorithme dans un langage précis et pas de concevoir cet algorithme. Ça, c'est la programmation elle-même.
Mais on est d'accord.
Ça, c'est ça m'agace.
On est entre geeks.
T'as vu, on a bossé. Hein.
Ouais, bah heureusement, on est sur Radio FMR.
Bon, alors du coup, on reprend. Anthony, ce point définitionnel étant terminé, je crois, peut-on se poser la question des apps ? Alors, comment les apps, en fait, sont l'interface de nos désirs ? Ça, c'est une première question. Et dans un modèle peut-être plus dirigiste et puis peut-être plus politisé encore, comment les apps produisent-elles nos désirs ? Sachant que même cette définition de désir, moi, je tiens à le souligner, recouvre en fait beaucoup de choses. Désir de nouveauté, tout simplement, désir de sexe, pourquoi pas, désir de compagnie, souvent, pour certains, certaines, désir de fonder une famille avec un projet de vie beaucoup plus large que tout simplement le fait d'être aimé. Nous, on va vraiment prendre ce terme aujourd'hui de désir dans sa connotation la plus large, mais on verra après d'ailleurs que c'est souvent la polysémie, c'est-à-dire les multiples sens du mot désir qui font problème, bah, et ça. Le malentendu sur la nature des désirs qui va être au cœur des applications et de leurs usages.
C'est ça, les applications, donc via les algorithmes, juste avant, visent à résoudre des objectifs ou des tâches en tout cas, mais derrière ce désir d'exécution ou de complétude, le manque revient à l'endroit du désir. C'est ça qui est intéressant, à l'endroit du rationnel. Et donc, bah, on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans les applications de rencontre, il existe aujourd'hui une multitude, plein d'applications qui permettent la rencontre. Donc, on retrouve ce vieux mythe de l'âme sœur.
Ah oui, alors déjà en plus, moi, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Dire la rencontre au singulier, c'est déjà très orienté. On sent qu'on est déjà dans un schéma monogame qui, le plus souvent, va être hétérosexuel, dans lequel chacun, chacune cherche sa moitié.
Ben, on a trouvé très peu d'exemples, en fait, où on peut chercher deux personnes ou s'inscrire à deux. Alors, on peut très bien hacker certaines applications en mettant des photos de couple, mais c'est pas anticipé niveau conception.
C'est en général, les applications de couple échangistes, elles existent, mais elles sont complètement à part.
C'est un autre domaine. Alors bon, la plus connue aujourd'hui, en tout cas en France, c'est Tinder, qui date de 2012. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est très simple. On se voit proposer en partie, en fonction de sa position géographique, un flux de personnes, mais en fait, on les voit un par un et on peut balayer à gauche, on swipe pour refuser la personne proposée, ou balayer à droite pour accepter. Tinder, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus seulement une application, ça devient un podcast. Ils produisent un podcast qui s'appelle DTR, qui donc raconte des histoires plus ou moins drôles de rencontres. Et donc, comme les sites Pornhub ou même dans notre registre, peut-être, la boisson Red Bull, ça devient finalement un groupe média, alors qu'à la base, c'était pas du tout le cas.
Ouais, alors du coup, moi, je vais faire un peu de journalisme gonzo, mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais noter qu'on appelle ces apps des dating apps, donc encore une fois, un anglicisme. En France, on date pas. Hein. Ce concept du date, il est très américain. On le voit débarquer aujourd'hui, mais moi, je l'ai vu évoluer à titre personnel. Il y a 15 ans, on disait pas qu'on datait. Hein. Avoir un date, c'est vraiment une intégration assez récente dans le langage français. Mais du coup, je vais parler de mon expérience. Alors moi, j'ai été inscrit 24 heures sur Mythic. Il y a quelques années, je me suis désinscrit parce que je trouvais ça vraiment horrible. Par la suite, j'ai été inscrite de nouveau 24 heures sur Tinder dans les Balkans. Désinscription de nouveau. Et pour le bien fondé de cette émission et avoir un peu plus de billes, je me suis dit que j'allais me réinscrire.
C'est bien, moi je ne l'ai pas fait.
Ouais, bah en même temps, toi t'es en couple. Remarque, il y a des gens en couple sur Tinder. Mais,
non,
passons.
Mais je devais faire Grindr et puis non.
Ouais, bah, c'est vrai que ça aurait été formidable en termes de Grindr, enfin en termes, pardon, de gonzo journalisme. J'ai vu le premier écueil lors de mon inscription sur Tinder. Tout simplement, bah, dans les premières phases de l'application, on m'a proposé homme ou femme. Alors, bien embêté, étant assigné femme à la naissance, j'ai pris femme. Enfin, ça ne m'allait que très moyennement. Plus tard, j'ai réussi à m'inscrire comme genderqueer, mais c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Et une chose qui est intéressante, c'est que l'appli m'ayant comprise comme femme de 33 ans m'a tout de suite mis avec des hommes de 23 à 43, parce qu'apparemment, par défaut, l'application m'a suggéré ça. Bon, je reviendrai plus avant sur cette expérience, quelques conversations intéressantes. Je me suis fait ghoster, on expliquera ce que ça veut dire. Je suis assez contente de n'avoir ghosté personne moi-même. Et quelques super likes accidentels, parce qu'avec la chaleur, mes doigts gonflent et bon, j'ai fait n'importe quoi.
Tu parles de Tinder, mais c'est qu'une app parmi une autre galaxie de plein de trucs. Et bon, je crois que je vais devoir me coller une liste à l'Amazon comme au dernier épisode. Et donc, je vais tenter de dater le dating, enfin de donner des dates. Alors, je m'y colle. Enfin,
bah, non, peut-être tu commences. Je peux commencer, bah, je fais OkCupid, tu fais Ashley Madison.
Date ça.
Ok Cupid, j'avoue que j'ai pas d'expérience de direct. J'ai une connaissance qui s'est mariée et qui m'a dit mais ça marche très bien, tout le monde doit le faire. Ok Cupid, d'après ce que j'en comprends, ça fonctionne sur le principe du QCM, c'est-à-dire que vous répondez à une suite de questions très 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 exhaustives. Et puis il y a cette idée que ce système de critères assez fins va faire mouche. Donc on répond à beaucoup de questions et on obtient un pourcentage de compatibilité et on obtient si jamais le fameux match. Encore un anglicisme. Le match, ça veut dire qu'il y a compatibilité entre deux
profils.
Est
très présent dans d'autres programmes.
Ok, alors il y a aussi Gliden, mais alors Gliden c'est plutôt pour les personnes en couple, c'est plutôt pour toi Anthony, si tu cherches une expérience.
Alors ouais, je l'ai pas testé, c'est de 2009, donc c'est un site de rencontre en tout cas, avec le logo à la pomme, mais j'ai switché sur Mac, donc ça me va les pommes. Mais ouais, je suis pas trop séduit par l'imagerie, je trouve ça assez ringard, je préfère parler d'Ashley Madison, je trouve ça plus drôle, parce qu'ils se sont fait hacker en juillet 2015, donc c'est le même principe, hein, vous inscrivez.
Attends. Ashley Madison, c'est surtout c'est pour cheater son couple.
Mais comme Gliden.
Mais Gliden aussi. C'est
payant de se désinscrire de Ashley Madison. Et toute l'histoire du piratage, c'est qu'ils ont gardé tous ceux qui s'étaient soi-disant désinscrits.
Alors, on rappelle pour nos auditeurs, donc ils reçoivent une demande de rançon. Évidemment, ils ne donnent pas suite. Et donc, la liste de tous les contacts et je crois du chat aussi. Enfin, en tout cas, bon. En tout cas, au moins les emails se voient mis en ligne en téléchargement. Et dedans, il y avait plein d'adresses mail de personnes dans les gouvernements, .gov, .fr, .us ou je ne sais quoi. Donc, les gens allaient là-dessus au travail. Après tout, c'est assez logique, vu la cible. Mythique, un peu plus vieux. C'est vrai qu'on l'avait oublié, mais quand même. Le papa. Donc... En fait, c'est pas le papa. Il y avait Match.com avant, donc on revient à cette histoire de compatibilité en 95. C'est un peu compliqué, l'histoire économique. Apparemment, il rachète à Match.com, donc Mythic rachète à Match.com, Mythic lancé en 2001, les filiales européennes, et se voit lui-même racheté par Match en 2011. Donc voilà, c'était fondé par Marc Simoncini et je crois coté en bourse.
C'est Marc Simoncini, c'était le fondateur d'iFrance, et en fait, au départ, c'était un échange d'actions entre les deux.
C'est parfait.
Après, Mythic est un peu tombé en désuétude, si je me rappelle bien. Je ne saurais pas le dater, mais ça s'est fait au profit...
C'est avec le mobile qu'ils ont perdu la vitesse.
Ça s'est fait au profit d'une autre application. Enfin, alors là, je parle vraiment de mon entourage social. Hein. C'est pareil, c'est très orienté en termes socio-culturels. L'application pour laquelle beaucoup de monde jurait à une époque, c'était Adopte un mec.
Ça, je connais, j'avais testé.
T'avais testé Adopte un mec. Moi, je déteste le nom de l'appli, qui me semble une espèce d'effort de post-féminisme absolument raté. Les femmes se font objectifier. Hey, on va objectifier les mecs aussi. Donc apparemment, ça sera ça l'égalité. Non, là, excusez-moi.
Bah, la pomme ça va, mais là l'imagerie du caddie, j'avoue, je suis pas trop dedans. Quoi.
C'est encore pire, et ça présuppose encore une fois des désirs, puisque quand on dit adopte un mec, il y a encore l'idée que derrière ce adopte un mec, il y a une nana, donc on est encore en plein dans l'hétéronorme.
Ils ont fait très fort point de vue com, parce qu'ils avaient fait des images, des pubs télé très 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 léchées, où il n'y avait même plus le nom, il y avait juste le logo à la fin. Et d'un autre côté, ils faisaient des pubs assez hardcore quand même, dans la presse et dans l'affichage. Donc ils jouaient énormément sur cette dualité.
J'accélère sur la liste. Hot or not hot, alors c'est l'ancêtre de Tinder, je boucle. Ils ont essayé de faire un reboot en 2014, mais ça n'a pas trop marché. Il y a aussi Badou, mais bon, j'en peux plus, là, des applications.
Ils ont été rachetés. Et il y a des applications très sélectives aussi, c'est intéressant. Raya, par exemple, c'est un peu le Skull and Bones de l'app de rencontre. Vous ne pouvez vous enregistrer que si vous connaissez quelqu'un qui vous envoie une invite perso.
Bon, il y a aussi évidemment tout ce qui est niche, alors niche religieuse ou ethnique ou raciale. J'ai un ami qui a trouvé l'âme sœur sur rencontrechrétienne.com, il s'est marié au bout d'un an, donc a priori ça marche. Ce qui est intéressant, l'application est assez clean, niveau éthique, elle ne te réengage pas automatiquement au bout d'un mois, donc voilà.
Et on n'a pas parlé de fétichisme étrange, moi je ne peux pas m'empêcher de citer au moins deux exemples. Le premier, Gluten Free Singles, ça c'est pour les célibataires qui cherchent des gens qui ne mangent pas de gluten, donc c'est quand même assez ciblé. Et pour la minute marxiste, mon chouchou, c'est Luxi, c'est l'appli pour les 1%, donc les 1%. Avec l'accroche, je vais être obligée de la dire en anglais parce que je la trouve juste géniale. Tinder minus the poor people. Tinder sans les gens pauvres. Donc on est bien content de savoir que lorsqu'on se connecte à cette application, vraisemblablement, on n'aura pas de gens qui gagnent moins de je sais pas combien de kilo euros ou kilo dollars par an.
Bon, alors pauvre ou riche, on peut avoir un chien, donc pourquoi ne pas parler Tindog?
Non, pas le point puppy, Anthony. On a dit bon. Non, pas les pets.
Xavier, on ferait une émission spéciale pets, animaux, t'es prévenu.
Ouais, fini la liste là, j'en peux plus.
C'est pire qu'Amazon ce truc, j'en peux plus. Alors, vas-y.
Est-ce que tout va bien ?
Ouais, désolé, j'ai une urgence à gérer.
Oh, pas de problème. Attends. Je rêve ou t'es sur l'appli ?
Ouais.
Mais c'est pas une urgence, c'est carrément foireux, ça. C'est moi ton rencard.
Ouais, si on veut. Désolée, c'est juste qu'il est que 10h et je pourrais peut-être rencontrer un autre mec après. En plus, j'aime vraiment bien sweeper. Qu'est-ce que tu penses de ce type ?
Vas-y, fais voir le reste de son profil.
Extrait de Master of None diffusé sur Netflix.
Et dans cet épisode, il est assez drôle. On voit que le personnage indien, c'est comme un flux infini, rien ne s'arrête. Il passe d'une conquête à l'autre et on est comme dans ce flux d'appli sur les App Store. On swipe.
Oui, alors c'est vrai que Aziz Ansari, qui est donc le personnage indien, mais aussi l'acteur indien qui incarne le personnage dont tu parles, est assez intéressant parce qu'il a écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Modern Romance, donc romance moderne. Et puis il arrive vraiment à pointer dans sa série des choses très très fines sur la manière dont on s'engage avec les applications, notamment cette idée de la pick-up line, c'est-à-dire cette phrase qu'on va utiliser de manière systématique parce qu'au bout de 150 matchs Tinder, on en a marre de se creuser la tête. Donc le personnage de Dev, qui est joué par Aziz Ansari, utilise toujours la même phrase de « Hey, je te prends un truc chez Whole Foods », donc Whole Foods, c'est l'équivalent de la Biocop. Donc c'est vraiment cette contextualisation dans un univers bobo, et puis la petite pick-up line qui, en fait, au bout d'un moment, n'est même plus drôle puisqu'elle est répétée à 150 personnes différentes.
Ouais, c'est pire que ça. En fait, c'est tout un rituel qu'il a développé, toujours le même bar, les mêmes répliques, les mêmes musiques, le même décor chez lui, etc. En fait, il a transformé sa drague en algorithme. Du coup, avec tout ça, on est en plein dans l'idée reçue. Alors, on oppose le virtuel versus l'IRL, le monde réel, superficiel. Est-ce qu'il y aurait finalement eu un âge d'or des rencontres avant les applications et ça aurait tout pourri ? Je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit si simple. Je pense qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Ça a toujours été la galère de draguer ou de rencontrer des gens. Donc, il faut faire avec le numérique. Voilà ce que j'ai envie de défendre.
Alors, faire avec, oui, mais quand même une petite nuance par rapport à ça. On n'est pas tous égaux égal face à l'offre. Il faut noter aussi qu'il y a un principe de coterie ou de distinction qui existe sur Tinder. Si on swipe pas assez ou pas bien, on va tomber dans un pool, enfin dans une catégorie de gens moins attractifs.
C'est ce que nous dit Igor Galigo, hein, qu'on a cité tout à l'heure.
Et donc ça nous rappelle un peu le roman de Gary Steingart, Super triste histoire d'amour, dans lequel les gens sont constamment scotchés à un smartphone qui lui il appelle apparat. Et puis on vous donne des points et une cote de popularité, et ça enclenche un accès limité à certains services. C'est-à-dire que plus votre note tombe, moins vous avez accès à d'autres choses. On l'a vu très très bien récemment aussi dans Black Mirror.